Nous sommes mercredi 15 mai 2024, les animaux de la forêt sont devenus fous et vous êtes amnésiques, vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergi. Oui, Mecton qui décapsule. Hein. Zergi, je ne sais pas si tu nous entends. Zergi est peut-être dans les limbes, je ne sais pas, en tout cas, quoi qu'il arrive. Il est là, il est parmi nous, au moins en esprit.
Il interviendra sûrement au moment le plus opportun.
C'est ça. Nous allons attendre Zergi.
Notre bref. Sniper.
Exactement.
Nous allons consacrer donc cette émission à Sea of Stars.
À ta merde étoile.
Merde étoile. Alors j'ai essayé d'écrire merde étoile. Ça ne fonctionne pas sur Twitch, on n'a pas le droit d'écrire merde.
Ah ouais, alors, okay. Et merde étoile, ça fait quand même beaucoup de nettoyage en machine.
Voilà, c'est ça, donc c'est emmerdant. Donc Sea of Stars, qui était une des petites sensations de la fin de l'année dernière, on a attendu la sortie physique pour faire cette émission au grand dam de Antix qui dit « je vais en parler, tu as raison ». Voilà, bon, donc on a attendu qu'il sorte dans le commerce. Et voilà, qui a été plutôt bien vu au Game Awards et qui a été plutôt apprécié de ce que j'ai compris. En tout cas, voilà, on va en discuter. Mais on va commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Je vais laisser Antix commencer. Je rajouterai peut-être des petits détails croustillants. Par la décompilation / recompilation de Zelda 64. Alors, on expliquera éventuellement la complexité du truc, mais voilà. Ouais, Antix, je vous en prie, cher monsieur.
Je pense que je vais te lancer sur le sujet. Je vais te laisser parler parce que c'est plus son rayon, en fait. Mais du coup, on a eu une petite truc assez sympa dernièrement. Alors, vous suivez un petit peu l'actualité des bidouilleurs de jeux, vous savez que Super Mario 64 possède déjà une version PC. C'est-à-dire, on n'est pas sur une émulation, mais c'est un fichier classique qu'on peut lancer et jouer à Super Mario 64, qui a jusqu'à présent permis pas mal le mode directement sur PC, des prises en compte d'un meilleur framerate, de manettes modernes, amélioration de la caméra, tout ça. Donc il y a eu pas mal de modifs là-dessus. Et forcément, y en a qui se sont attaqués à l'autre monument de la console, Zelda 64. Et donc nous avons actuellement une recompilation, non pas une décompilation. Je crois qu'il y a une petite nuance là-dessus, que tu pourras, je pense, t'expliqueras mieux que moi. Mais en gros, pour faire la version simple, de ce que j'ai pu voir en me renseignant, une recompilation, c'est plus rapide à faire que tout décompiler, même si c'est du vieux code, ça prend du temps. Là, dans le cadre d'une recompilation, on est sur quelque chose qui va beaucoup plus vite, alors il faut quand même dire un petit peu de travail. Quelque chose qu'on peut faire aussi en parallèle de la décompilation, parce que l'un va aider l'autre. Mais surtout, l'avantage, c'est que voilà, ça permet un peu plus de rendre un peu plus rapidement accessible le jeu. Et ce que ça a donné, c'est que désormais, on peut jouer. Il y a un launcher qui existe, on a fait un tweet à ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur Nintendo Dojo.fr ou sur Mastodon, je l'ai plus en tête, pour retrouver le GitHub où se trouve en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer. En gros, avec une ROM US de Majora's Mask, vous pouvez lancer le jeu sur votre PC et c'est émulé en natif et apparemment c'est plutôt fidèle. Et le mec qu'on prévoit de faire Ocarina of Time sous peu, plus d'autres versions de Majora et de Ocarina of Time, enfin, les versions PAL et les versions japonaises, j'imagine. Donc voilà.
Pour l'instant, ça ne fonctionne que sur les versions américaines, et donc effectivement, c'est pas une décompilation à proprement parler. C'est-à-dire que pour Mario 64, en fait, l'objectif du projet de décompilation, c'était vraiment de reconstituer le code source d'origine. Donc on rappelle, hein, le code source, c'est un petit peu la recette de cuisine qui permet d'aller construire le jeu. Donc c'est le code qu'on va écrire dans un langage lisible par des humains. Alors certains disent que non, c'est pas lisible par des humains, mais si, il y a des humains qui le lisent.
Oui, on le lit très bien.
Ça se fait très bien. Voilà, c'est du code, ouais. Donc écrit dans un langage finalement compréhensible, qu'un compilateur, donc un petit programme un peu spécial, va convertir dans un langage que seule la machine peut interpréter. Voilà. Donc l'idée de décompiler, c'est de faire l'opération inverse, c'est-à-dire de partir du code compilé pour la machine et de reconstituer a posteriori le code source du jeu. Donc dans Mario 64, l'objectif c'était vraiment de reconstituer le code source à l'identique, c'est-à-dire l'idée c'était de dire on peut faire des allers-retours, donc on peut partir du code qui a été décompilé, reconstituer la ROM d'origine, partir de la ROM d'origine, reconstituer le code compilé. Donc c'est une opération qui est quand même longue, compliquée, qui implique beaucoup de monde. Là, sur Zelda 64, la technique est un tout petit peu différente. L'idée, c'est toujours d'aller décompiler le code, mais en gros, c'est pas forcément d'aller en comprendre le moindre rouage pour essayer de reconstituer des fonctions compréhensibles. Je vais résumer ça comme ça, même si ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça. Mais en gros, pour Mario 64, on avait vraiment une fonction... Enfin, tu vois, dans le code, t'avais une fonction saute qui faisait sauter Mario. C'est OK. Donc, saute qui faisait sauter Mario. Et dans Ocarina of Time, là, on a une fonction qui s'appelle ZX423412. On sait pas exactement ce que ça fait. On s'en fout, puisque l'important, c'est d'avoir le code C qu'on peut recompiler pour un autre processeur. Donc c'est ça qui fait une petite différence entre les deux. Ça va apporter une petite nuance là-dessus. Donc techniquement, un projet, on va dire, un tout petit peu différent, mais le résultat final est le même, c'est-à-dire qu'on va vraiment récupérer du code plus portable qu'on peut recompiler pour une autre machine. Et il y a déjà des gens qui sont en train de s'amuser à faire du ray tracing dans Majora's Mask, à faire de l'amélioration de texture, à aller faire du 16:9, du 1080p, faire tourner le jeu en 360Hz, enfin bref, tout le bordel que vous pourriez imaginer là-dessus. Donc le résultat sera à peu près le même, simplement le code décompilé est un peu moins compréhensible.
Ouais, alors après, surtout, c'est effectivement toutes les modifs qui vont être intéressantes. Je crois que le gars qui a fait la recompilation avait déjà testé sur un autre jeu avant, qui était complètement inconnu. Ça vraiment, ça se fait assez facilement. Alors moi, ce que je vous recommande, si vous êtes un peu intéressé par tout ça, et un petit peu voir à quoi ça rend aussi Majora's Mask sur PC, c'est d'aller regarder une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Neurel, N-E-2-R-E-L, qui a fait justement une vidéo pour expliquer en fait c'est quoi cette histoire de recompilation et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça donne au niveau du jeu. Et j'avoue que c'est assez saisissant de voir Majora's Mask avec des rendus un peu plus fins que la version d'origine.
Voilà. Alors après, c'est le très gros intérêt de ce projet-là par rapport au projet de décompilation de Super Mario 64, c'est que la technique utilisée globalement pourrait être utilisée pour à peu près n'importe quel jeu N64, en fait, de ce qui se dit, c'est que finalement l'outil est suffisamment générique pour fonctionner, donc ça pourrait permettre de décompiler beaucoup plus de trucs, enfin de recompiler beaucoup plus de trucs que ce qu'on imagine. Donc ça ouvrirait la porte à pas mal de choses. La question intéressante derrière étant, est-ce que ça pourrait être utilisé sur d'autres consoles, d'autres machines? Est-ce que l'ensemble d'outils existants pourrait être adapté pour d'autres trucs? La réponse c'est très probablement oui. Jusqu'à quel point je ne sais pas, mais très probablement oui. Donc ça pourrait permettre quand même de faire des petites choses intéressantes dans l'avenir. Faudra surveiller ça de près. Je pense que les avocats de Nintendo sont en train d'affûter les katanas. Donc, mon petit conseil, ruez-vous sur le truc tant qu'il est encore là. Je suis pas certain que ça va durer.
Alors après, c'est sur GitHub, hein. Donc ça va s'éparpiller dans la nature.
Ouais, mais GitHub, c'est Microsoft, donc peut-être pas tant que ça.
C'est pas faux, c'est vrai qu'ils sont voisins.
Voilà, ils habitent tous les deux à Seattle, il faut le savoir.
Et Valve est pas très loin aussi.
Ouais. Tout à fait. La deuxième petite nouvelle de cette émission qui va faire rire tout le monde, c'est la vraie fausse annonce de la Switch 2.
En gros, Tonton Fukuda qui a fait un tweet en mode « Nous emmerdez pas avec la Switch 2, on l'annoncera après cet été, au mieux. »
Voilà, c'était vraiment « Merci beaucoup, Tonton Fufu. »
Alors, il y avait une vraie info, ceci dit. C'est que nous aurons un Nintendo Direct en juin.
Voilà, qui sera donc après un dojo bar, hein, je vous rappelle.
Et très probablement après le dernier dojo bar de la saison.
Putain de merde. On fera un hors-série, rien à foutre.
C'est ça.
En vrai, peut-être qu'on le fera, d'ailleurs, parce qu'effectivement, je trouve ça extrêmement frustrant à chaque fois, donc peut-être qu'on le commentera en direct, je ne sais pas, qu'on fera un petit truc, il faudra voir si on peut...
On va faire un dojo direct spécial React.
Oui, je pense que c'est une bonne idée, ça. C'est une très très bonne idée. Bref, nous allons faire une première pause musicale. Attends que je retrouve le truc. Ah, voilà. Donc, de la bande originale de Sea of Stars, puisque c'est notre jeu vedette pour ce soir, nous allons nous écouter un petit morceau qui a été composé par Eric Brown, qui a fait 90% de la BO. Il y a aussi Yasunori Mitsuda, oui, ok, très bien, mais il a fait très peu de la BO, donc j'aimerais bien qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements, c'est pas tout à fait ça, mais qu'on remercie un petit peu Eric Brand qui a fait un boulot assez, assez phénoménal sur cette BO. Le morceau s'appelle Dance of the Thousand Suns, ça dure 2 minutes 20 et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et nous allons donc parler de Sea of Stars. On va commencer, comme on en a pris l'habitude pour cette saison, par parler, on va dire, des mécaniques de jeu, générales du jeu, puis ensuite on abordera plus la partie DA, design, musique, graphisme, tout ça. On va dire l'enrobage. Voilà, donc on va commencer par...
Déjà, on peut peut-être un peu introduire le jeu en lui-même.
Oui, tout à fait, je t'en prie.
Donc c'est vice, effectivement. Du coup, Sea of Stars, c'est le nouveau projet de Sabotage Studio, les gars qui ont fait The Messenger, donc un sympathique jeu d'action plateforme, sorti sur Switch en 2018, je crois, qui avait comme particularité d'avoir à la fois un rendu 8-bit et un rendu 16-bit.
Le Switch était lié au scénario, c'est ça?
Ouais, après il y a d'autres choses évidemment liées à ça, mais voilà, c'était un petit peu sur ça qui s'était vendu à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a pu remarquer que c'était des gens qui étaient très très doués pour faire du joli pixel art. The Messenger version 16 bits est vraiment très très beau.
Québécois, pardon, je sais pas si tu l'avais dit.
Non, je l'avais pas dit, je viens de le préciser. Oui, d'ailleurs, The Messenger qui est une version québécoise, qui apparemment est à mourir de rire.
Ah, ça voilà. Vaut le coup du coup.
Enfin, en ouais, tout cas, c'est... ou juste parce qu'on est français et qu'on trouve que le québécois c'est marrant, hein. Peut-être juste ça la subtilité.
Allez, bâtard.
Un ninja qui parle en québécois, ça va me tuer. Moi.
C'est ça. Du coup, Sea of Stars, c'était leur projet suivant qui a été annoncé il y a quand même...
4 ans, facile. Hein,
3-4 ans, ouais, ouais, facile.
J'aurais dit fin 2020, moi.
Donc le classique, le petit Kickstarter, histoire de dire, voilà, c'est ça notre jeu... On veut faire un jeu un petit peu hommage au RPG de la Super Nintendo, notamment Chrono Trigger. Tellement hommage que ils ont recruté Yasunori Mitsuda à la bande-son qui a fait quelques titres, comme on l'a dit juste avant. Si vous connaissez un peu d'ailleurs le style de Mitsuda, les musiques sont assez repérables. De mémoire, c'est genre les espèces de cascades après le premier donjon, notamment. À mon avis, c'est lui qui l'a fait celle-là. Et voilà, et du coup le jeu a mis un peu de temps à sortir, alors sûrement pour des raisons de type Covid, et il est finalement arrivé à l'été 2023 en téléchargement et récemment en version physique pour les autres, pour tout ce qui n'est pas l'Asie, parce que je crois qu'en Asie il était sorti directement en physique. Ouais, si je me souviens bien.
Ou plutôt que chez nous, mais.
Oui, voilà.
Avec une jaquette qui tue la gueule d'ailleurs.
Qui est meilleure que la jaquette européenne d'ailleurs.
Oui.
Comme souvent avec les jaquettes japonaises, non ?
C'est pas toujours le cas, il y a quelques... Enfin bon, on en parlera peut-être un autre jour, mais c'est vrai qu'il y a quelques jaquettes japonaises qui sont pas toujours terribles. Hein. Celle du Chrono Cross Radical Dreamers, je sais pas quoi, elle était pas fofolle. Hein.
Ah, je vais pas faire ça, fait attention à toutes les jaquettes. Mais voilà, mais du coup on se retrouve avec un RPG à l'ancienne, mais sur une plateforme plus puissante, ça se veut être une version moderne de Chrono Trigger. Je ne serais pas d'accord avec là-dessus sur pas mal de choses, mais on y reviendra plus tard.
Voilà, l'introduction est en fait, et c'est important, on va passer au jeu lui-même. Donc comme on l'a dit, c'est un... Alors ça me fait très mal de dire que c'est un JRPG parce que c'est fait par des Québécois.
Donc, ouais, c'est un tour par tour.
Oh bah c'est Sea of Stars est un RPG américain comme Dark Souls est un RPG japonais.
Ouais, c'est un peu ça, effectivement, il y a ce côté, y a ce côté finalement pas très cohérent là-dedans, mais enfin, on va dire que c'est un RPG un peu traditionnaliste.
Ah, parce que c'est un RPG avec donc une histoire dont l'aspect principal est le scénario. On va parler des mécaniques, mais bien se rendre compte que le scénario reste quand même assez central dans l'expérience de jeu. On va contrôler un groupe de héros. On parlera un petit peu après. Et on va avoir des combats régulièrement contre des ennemis plus ou moins rigolos, et avec notamment un système de tour par tour, et des explorations d'environnement. Donc vraiment, si vous avez joué à RPG sur Super Nintendo, ou si vous avez joué à Golden Sun, j'avoue que ça se rapproche aussi un peu de Golden Sun par moment. Un des héros qui ressemble beaucoup à Isaac d'ailleurs.
Oui.
Voilà, si vous avez joué à Golden Sun, vous voyez à peu près ce que ça va être.
Voilà, donc effectivement, il y a une grande partie, on va dire, exploration. Alors, c'est de la 2D, hein, c'est du. Comme le RPG traditionnel, ça se veut être comme un jeu qui aurait pu sortir sur Super Famicom. Bon, en réalité, il y a quand même des effets bien trop avancés pour la Super NES, hein, mais.
C'est beaucoup trop beau pour la Super Famicom. Hein.
C'est ça, donc ça, c'est quand même un peu compliqué, mais ça se veut être dans cette veine-là, donc effectivement, on est en 2D, en vue du dessus. Il y a des environnements qui sont, j'ai envie de dire, grands, mais pas si grands que ça. Moi, ça m'a fait un peu penser aux environnements de Secret of Mana, c'est-à-dire que t'es guidé, mais pas trop.
Oui, ça va relativement vite, hein. Tu passes pas plus d'une demi-heure, je pense, par donjon.
À peu près, et puis même dans les passages entre les deux, que ce soit les villages, que ce soit les forêts, que ce soit les déserts, que ce soit les. Alors, je sais pas s'il y a des déserts, parce que j'ai pas été aussi loin que ça, mais voilà, tu sens quand même l'exploration un petit peu tranquille, avec deux, trois petites énigmes par-ci par-là, un tout petit peu de backtracking, mais l'impression que ça me donnait, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup. Le consensus avait l'air de dire que c'était pas beaucoup. Je pense
Ouais, il est
que.
là pour du bonus, je dirais, de ce que j'en ai vu pour l'instant.
C'est-à-dire, genre, tu récupères une arme dans le donjon, si tu reviens un peu en arrière, tu peux éventuellement t'en servir ou des trucs comme ça.
Pour débloquer un coffre que t'aurais vu au passage, quoi.
Je crois que tu peux
D'accord.
quasiment tout débloquer du premier coup. Mais après, il y a des petits trucs cachés, notamment les conquêtes partielles. Ce sont un peu le collectible à récupérer en grande quantité. Un peu caché partout, mais ouais, globalement, l'environnement, normalement, t'y passes une fois, c'est réglé.
Ok.
Voilà, donc une exploration 2D. On va dire sympathique.
Bah, ce qui est assez cool dans l'exploration de ce jeu, pour le coup, je trouve que c'est un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des petites notions de plateforme. Petites. Les héros peuvent sauter, c'est pas donné à tous les héros de JRPG, hein. D'habitude ils restent cloués au sol. Et du coup ils se permettent de faire un petit peu de verticalité en fait dans les niveaux. Ça se verra assez vite, donc après le premier donjon on doit descendre une zone avec des cascades. Et ça joue vraiment là-dessus. Et pour le coup je trouve que ça rend le truc assez chouette. L'exploration est assez dynamique. On récupère des petits objets d'ailleurs qui vont aider à avancer. Hein. Par la suite, donc, dans le premier donjon, tu as l'espèce d'objet qui permet de créer du vent, un petit peu comme le premier objet dans Minish Cap, là, qui permet de faire du vent et pousser les obstacles. C'est un peu le même genre. Un petit peu plus tard, il y aura un grappin. Alors, le grappin, c'est très cool. Ça permet vraiment de se déplacer vite. Donc il y avait plein de petits trucs qui vont être ajoutés au fur et à mesure en fait, dans le jeu pour explorer les environnements, et je trouve que c'est plutôt sympathique.
J'ajouterais aussi le petit. Je vais peut-être avoir du mal à le décrire, mais le petit multi-plan. Il y a des petits labyrinthes, un petit peu comme si le jeu, ses phases de plateforme étaient en 3D isométrique, quoi.
Oui, c'est ça.
Alors.
Et du coup, il y a pas mal de petits secrets à avoir. Hein. Je parlais des conquêtes arc-en-ciel. Il y a aussi des petites attaques qu'on doit récupérer dans des coffres, des objets, évidemment. Donc, grand classique, hein, du JRPG. On reste pas iso.
Oui, ce que j'allais dire, c'est un. Donc comment dire, les ennemis sont présents à l'écran. Donc on peut les voir un petit peu façon. On va faire beaucoup de comparaisons avec d'autres JRPG, mais c'est vrai que le jeu s'y prête beaucoup. Je pensais à Secret of Mana ou à Chrono Trigger, c'est-à-dire qu'on voit les ennemis sur l'écran, donc on peut essayer d'éviter les batailles. Je suis pas sûr en vrai, hein, parce que les ennemis vont quand même relativement vite. Moi, à chaque fois, ils ont réussi à me choper à un moment. Mais voilà, ça ressemble énormément à du Chrono Trigger, dans lequel, tant qu'on n'a pas touché l'ennemi, on n'est pas en posture de bataille, on est juste en train de se balader sur la carte, et dès qu'on les touche ou qu'on les approche d'un peu trop près, pouf, on se retrouve en posture de bataille. Je n'ai pas vu d'option pour fuir, je ne sais pas si ça existe, ça n'a peut-être pas
J'en ai
beaucoup de
pas
sens.
vu. Je sais pas si ça se débloque après.
Je crois qu'il n'y en a pas.
Ah, ça aurait pas forcément beaucoup de sens qu'il y en ait non plus, hein, donc
Bah, il y en a dans Chrono Trigger, hein, pour le coup, donc c'est un peu bizarre si on n'a pas.
Ouais. Après, bon, je vais évacuer le truc tout de suite. Il m'est arrivé déjà une fois de mourir sur un combat surprise où je suis arrivé mal préparé. Le jeu est généreux, hein. Il te fait repop full vie l'écran d'avant et puis retente ta chance, quoi.
Oui, ça pour le coup, il n'y a pas trop de risques à mourir au combat.
Ouais. J'ai envie d'aborder les donjons, si ça vous va. Alors, je n'ai à titre personnel fait que le premier, donc je sais que c'est un petit peu limité. Mais j'ai bien vu le système. Ça m'a personnellement beaucoup fait penser à Terranigma. Je ne sais pas si vous êtes familier du jeu.
Pas du tout, mais je crois que c'est toi, c'est ton jeu de cœur.
Alors non,
Un de tes
c'était
jeux de
Illusion
cœur.
of Time qui était le jeu d'avant, mais... Mais Terranigma, c'est fait partie de la trilogie de Quintet dont on a déjà parlé, dont on a il y a quelques articles qui traînent sur le dojo sur ce truc-là. Donc c'est Soul Blazer, Illusion of Time, Terranigma. Et en fait, Terranigma, les donjons sont très comme ça, en fait. C'est-à-dire vraiment où tu explores des pièces, il y a des ennemis, tu vas aller ouvrir un passage, tu vas aller ouvrir un mécanisme, et puis pouf, tu vas aller te retrouver dans un autre truc. Et finalement, les donjons sont très courts, très contenus. Voilà, encore une fois, j'ai fait que le premier, mais j'ai pu voir un petit aperçu de ce qu'il y avait après, ça y ressemble beaucoup aussi. Donc ça a l'air d'être voilà, vraiment chaque fois dans une pièce, une petite énigme pour passer à la suite, mais jamais quelque chose d'ennuyeux, jamais quelque chose de compliqué, j'ai toujours un truc très accessible où tu vois le truc, tu y vas, quoi.
Je crois que c'est, alors je sais plus si c'est au deuxième, non, je crois que c'est au troisième donjon où on débloque un objet qui te permet du coup d'avoir des petits pouvoirs supplémentaires pour varier un petit peu ces énigmes. C'est plutôt cool. Je sais pas si ça se renouvelle tout le long. C'est sympa.
Voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur la partie donjon, ça fait un peu partie de l'exploration aussi, mais j'ai l'impression qu'on... Voilà.
La carte du monde, alors qui pour le coup fait très très penser à Chrono Trigger.
Ouais, bah après ça va se débloquer. Après au niveau des donjons, parce que pour rajouter, bah oui, c'est vraiment beaucoup de petits donjons à énigmes, hein, globalement, avec un ou deux gimmicks. Et comme on a dit, ils sont relativement rapides. Ça, c'est pas mal.
J'ai l'impression aussi qu'ils bouclent beaucoup sur eux-mêmes, mais c'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être une idée. C'est-à-dire que t'as tendance à revenir au point de départ. Je sais que le premier fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire tu vas aller explorer un truc, tu reviens au point de départ, t'as un bivouac, tu peux te soigner, pouf, tu retournes. Enfin voilà, le truc a l'air de boucler pas mal. J'ai l'impression que les suivants ont une certaine tendance à boucler aussi comme ça, justement, à être designés exprès pour que tu repasses un peu toujours au même endroit. C'est peut-être une idée.
Pas tous, mais c'est vrai que c'est un thème un peu récurrent.
D'accord.
Maintenant que tu le dis.
Ça peut être intéressant. Je vous propose d'aborder la partie système de combat, puisque il s'agit d'un RPG, donc le deuxième gros composant, c'est quand même le système de combat. Comme on l'a dit, c'est du tour par tour.
Tour!
Oui. Avec deux, trois petites particularités. Alors ça va aller piocher des petites choses intéressantes à droite à gauche.
Globalement, c'est beaucoup les bases de Chrono Trigger avec du tour par tour. Il n'y a pas de jauge d'ATB, par contre. Le fonctionnement est un petit peu différent en fait pour les tours. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver sur le combat. Donc, ça se fait sur la carte du monde. Et en fait, tous les ennemis vont avoir une espèce de chrono à côté d'eux avec un chiffre dedans. Ça va indiquer le nombre d'actions qu'on pourra faire nous en tant que joueur avant qu'ils puissent attaquer. Et en gros, nous, le nombre d'actions, on peut choisir quel personnage va attaquer en premier. On n'a pas vraiment de contraintes sur l'ordre, il n'y a pas une histoire de vitesse comme c'est souvent le cas. Et on va pouvoir faire plusieurs actions, donc basique, taper. Pour les attaques, il y a toujours une petite action, un petit timing à avoir à la Super Mario RPG. Où au moment de donner le coup, faut taper pour pouvoir en donner un deuxième. On va pouvoir utiliser des capacités spéciales des personnages. Alors au début on commence avec deux capacités et c'est peut-être un truc que j'ai trouvé dommage d'ailleurs là-dessus, c'est qu'ils en ont que trois chacun.
Ah merde!
Et
C'est bon, c'est...
ça plus une capacité ultime. Donc, du coup t'es un peu genre ah bon bah j'ai déjà tout. Mais il te reste encore la moitié du jeu à faire.
Ah oui, donc, genre, dès le début, t'as débloqué deux tiers du... Enfin, la moitié des capas du perso, tu les as, quoi.
Ouais, après c'est des capas qui sont assez ciblés, hein. Globalement c'est. Il y a des personnages qui vont avoir des attaques de zone, qui vont avoir donc c'est relativement bien équilibré entre les différents personnages. Il me semble qu'il y a de la défense, J'avoue, je pense que ça commence à être un peu loin. J'ai oublié à quoi ressemble le système de jeu.
Alors, il y a de la
Oui.
défense, tu peux. Alors, faudra qu'on revienne là-dessus, mais c'est vrai que tu peux appuyer sur un bouton au bon moment pour te défendre.
Oui, il y a ça. Mais il n'y a pas une option défense, hein, de mémoire.
Non, il n'y a pas de posture de défense ou d'option de défense, c'est vraiment de l'interactif, c'est-à-dire le mec te tape dessus, t'appuies sur le bouton, pouf, tu te défends, quoi.
Et du coup, je me souviens plus, je crois qu'il y a deux, trois options, enfin il y a encore deux options, je crois, en plus de l'attaque et des compétences, mais j'ai oublié c'est quoi.
Les objets, le combo.
Ah oui. Bah du coup, les objets, bon, c'est explicite, et les combos, en fait, quand on va se battre en combat, il y a une petite jauge qui est vide au début de chaque combat, hein, même, elle se conserve pas d'un combat à l'autre, et à force de taper sur les ennemis, elle va se remplir, et quand on aura. Donc il y a trois niveaux. Et on va pouvoir utiliser les attaques combo qui nécessitent de dépenser 1, 2 ou 3 niveaux selon l'attaque. Notamment dès le début du jeu, on a un super sort de soins de masse qui est très très pratique. Et je crois pour deux combos, qui sont pas mal sur les boss. Il y aura des options qui vont se débloquer un petit peu par la suite. Parce que chaque personnage va avoir une compétence ultime. C'est encore une autre jauge à remplir. Il va y avoir la possibilité de pouvoir changer de perso à la volée quand on aura plus de 3 personnes dans l'équipe. Ça, c'est plutôt cool.
Ah, donc on
Oh!
peut changer, c'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, pour ce combat-là, c'est pas très adapté, et en fait se dire très bien, je remplace machin par truc, façon Mario RPG finalement.
Ouais, et c'est même assez attendu du jeu, parce que quand on va parler des verrous sur les attaques des ennemis, c'est quelque chose qui est assez attendu, je pense même, du design de certains boss, de pouvoir faire tourner à la volée. Et la dernière chose qu'on va débloquer, je l'avais en tête et je l'ai perdu, c'est
Les
pas
petites
malin.
orbes.
Ouais, voilà, les petites orbes, on les débloque assez vite. En gros, quand on tape des ennemis, on va pouvoir faire apparaître des orbes. Et il y aura la possibilité de les absorber avec les personnages. Ça va donner des propriétés élémentaires à nos attaques, notamment des dégâts magiques. Donc ça va être utile pour certains ennemis, certains boss, qui nécessitent d'avoir recours à cette stratégie. Voilà, c'est un petit peu les bases du système de combat, globalement. Et du coup, il y a un dernier élément qui est important. Donc, ça, je disais, c'est les verrous sur les ennemis. Donc, en plus d'avoir cette petite jauge de timing pour savoir dans combien de tours ils vont attaquer, il y a certains ennemis. Et pratiquement tous les boss à partir du premier, en tout cas à partir du moment où on t'enseigne cette mécanique, des fois, ils vont lancer une attaque qui est plus forte que les autres. Et ce qui va passer, c'est qu'à côté d'eux, va être affiché des symboles qui représentent un petit peu les dégâts élémentaires. Donc en gros, ça va être soit le type d'arme, coupant, contendant, soit un type de magie, donc soleil, lune, et puis après il y en a d'autres qui vont apparaître.
Oh.
Et le En fait, c'est vraiment avec ses armes ou ses éléments sur les ennemis pour en fait casser les verrous. Au début, généralement, il y en a 3-4. À la fin, il y en a qui en sort. Je crois qu'il y a un des derniers boss qui en sort un avec 12. Ça, c'est un peu à ce moment-là.
Oui, c'est sympathique.
Et en gros, quand tu casses des verrous, ça va réduire la puissance de l'attaque, et ça, il va tous les casser, ben, l'ennemi il va pas pouvoir attaquer du tour, donc gros bénéfice de le faire. Et il y a certains ennemis, effectivement, des attaques qui sont un petit peu mal, donc c'est pas plus mal de les empêcher de les faire. Et ça va devenir un peu le centre du système de jeu, c'est comment tu priorises tes attaques, est-ce que c'est mieux de casser les verrous et d'essayer de tuer des ennemis, sachant qu'il me semble qu'on voit les barres de vie, donc on sait à peu près où on en est.
Il y a un objet pour ça, oui.
Il y a un objet pour ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça les bases du système de combat. Donc ça reste proche de Chrono Trigger. Mais il y a des petits twists qui sont intéressants. Moi je trouve que le système de verrou, notamment sur certains combats de boss en fin de jeu, ça apporte une vraie valeur stratégique et ça rend vraiment les combats intéressants. Je pense que c'est aussi pour ça que les personnages n'ont pas énormément de compétences. C'est justement pour pouvoir se souvenir de qui fait quoi, qui peut avoir un sort de zone avec un élément en particulier, ce genre de choses. Et éviter en fait d'avoir trop d'informations à gérer pendant les combats.
Oui, parce que la barre de verrou comme ça, c'est quand même des trucs élémentaires, genre soleil, lune, épée, marteau, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est quand même des trucs un peu de base.
Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de. Je crois qu'au début du jeu, t'en as 4 sur les 6 ou 7 qu'il y a dans le jeu.
Oui, donc voilà, ça va. L'idée, c'était effectivement de peut-être pas noyer le joueur avec des trucs trop compliqués, de ce que ce soit tout parfaitement identifiable. T'as les attaques solaires, t'as les attaques lunaires, bah ça fait soleil-lune. T'as épée, c'est les attaques tranchantes. T'as marteau, c'est les attaques contondantes. Et puis, t'as deux, trois autres éléments, je suppose, après. Mais c'est vrai que si t'as 300 éléments au total, ça devient un peu lourdingue derrière.
Oui, c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi de restreindre les capacités, c'est pour mieux pouvoir se concentrer là-dessus. Et honnêtement, ça marche plutôt bien. Alors, sur les ennemis de base, je trouve que passer un moment, ça fait un peu sac à PV et t'aurais juste envie que ce soit un peu plus rapide. Par contre, sur les boss, ouais, ça fait créer des gros moments de tension quand tu les vois afficher tous leurs verrous et tu sais que ça va être la merde, quoi. Et des fois, bah, t'es là, genre, bon, bah, comment je priorise mes soins compagnie, je trouve que c'est assez réussi là-dessus.
Je suis pas sûr qu'on en ait parlé, ça m'a peut-être échappé. Il y a tout un système de timing aussi pour ces attaques. C'est-à-dire, ça fonctionne un petit peu comme dans un Super Mario RPG. Il suffit pas juste de lancer l'attaque et puis de laisser se débrouiller. T'as souvent un côté un peu interactif. Alors, effectivement, très léger, hein, Mario RPG. Donc, je maintiens le bouton jusqu'à ce que la boule soit très très grosse. Je lâche, pouf, ça lâche une plus grosse boule, ça fait plus de dégâts. Il y a un petit boomerang qui revient, et donc si j'appuie sur le bon bouton, pouf, je peux aller le renvoyer autant de fois que je veux jusqu'à ce que j'y arrive plus. Ou ce genre de petites choses-là qui sont introduites très très vite d'ailleurs, ces petites capacités. C'est assez rigolo parce que finalement, ça a un mélange entre un système Chrono Trigger et un système Super Mario RPG. Même le changement de personnage me fait aussi penser à ça. Je sais pas si ça continue après dans le jeu, j'ai l'impression que oui.
Ici, il y a un peu plus de variété au niveau des manips à faire. En plus, tu as aussi les combos qui nécessitent de faire des manips. Donc au final, tu as quand même hein, le petit truc à apprendre. Je pense que doit y avoir à peu près 3-4 patterns différents au niveau des attaques. Hein. C'est pas non plus excessif, mais ouais,
Ouais,
y a un petit peu de variété là-dessus, quoi.
comme Mario RPG, quoi. C'est tambouriner le bouton A ou appuyer sur A avec le bon timing ou maintenir le bouton A pendant un certain temps. Enfin voilà, c'est
Oui, c'est
jamais des
ça,
choses très compliquées.
c'est exactement ce genre de choses.
J'ai une petite question au passage. Est-ce que vous savez si le petit texte qui s'affiche en te disant quelle est la manip à faire, on peut le désactiver?
J'ai pas vérifié.
Ça, c'est pour mon confort, parce que je commence à savoir que oui, telle capacité, il faut que je reste appuyé sur le bouton. Et c'est juste la petite frustration de la seconde ennemie où le texte va s'afficher pour te rappeler le tuto, elle commence à me gratter, quoi.
Ah, c'est intéressant. Faudra regarder peut-être dans les options, effectivement, il y a peut-être des choses comme ça. Il y a. Je voulais parler de deux autres petits trucs tant qu'on était dans le système de jeu. Alors, il y a des mini-jeux.
Tu penses à quoi? Alors, la pêche.
La pêche.
Il y a un gros mini-jeu.
La
C'est la
roulette.
pêche.
La roulette, tu l'as pas encore, Mortal.
Non.
Non, mais la
La
roulette,
roulette.
c'est très cool, par contre.
C'est génial.
Alors, est-ce qu'on peut détailler la roulette du coup?
Voilà. Alors, je te laisse
La
faire avec.
roulette. Donc la roulette. Imaginez un plateau de jeu où il y a deux châteaux face à face et sur les deux côtés de ce château pour chaque joueur, un emplacement pour une figurine. Début de partie, chaque joueur choisit deux figurines qui représentent une classe, quoi. Donc, mage, archer, chevalier, il y en a d'autres. Et devant chaque joueur, il y a quatre ou cinq, je sais plus, un certain nombre de roulettes. Et quand c'est ton tour de jeu, tu fais tourner les roulettes tournent, elles t'affichent un symbole. Tu peux bloquer certaines de ces roulettes avant de relancer le tirage d'après pour garder le résultat d'un rouleau, pour aboutir au bout de trois jets à la combinaison dont tu as besoin. Les combinaisons servent à alimenter la figurine de gauche ou alimenter la figurine de droite ou alimenter le mur qui est devant ton château. Et le but, c'est... Donc si tu alimentes ton château, ça fait monter un mur devant, qui va être une protection, quoi. Si tu alimentes suffisamment une figurine, cette figurine va attaquer le château d'en face.
D'accord. Et donc c'est... Ok, c'est un petit mini-jeu, quoi.
Voilà, avec des notions de dix, tu peux faire monter l'XP de ces figurines pour qu'elles tapent plus fort. Enfin, il y a des petites subtilités. Et ça a l'air compliqué à expliquer comme ça, je m'y suis peut-être mal pris. Mais
Non, c'est relativement clair. Je vois à peu près le truc, quoi.
Voilà, le truc est suffisamment addictif pour que tu y reviennes souvent. D'autant que de ce que j'en ai compris, tu peux jouer à ce mini-jeu dans différentes tavernes aux quatre coins du monde. Et si tu finis la partie expert de la taverne en question, tu débloques une nouvelle figurine.
Ouais, c'est une espèce de quête annexe en fait où Dans toutes les tavernes, t'as une board, enfin t'as un mec à affronter sur la table. Et il y a vraiment une quête avec un maître de la roulette à battre à la fin. Et du coup, tu vas récupérer les différentes figurines du jeu. En plus, c'est assez rigolo les figurines parce que c'est des classes classiques de JRPG, enfin de RPG. Et elles ont toutes des pouvoirs un peu spécifiques, donc il y a des stratégies à faire avec les duos qui est assez rigolote.
Oui, voilà, ça va être des conneries, genre le guerrier il attaque tout droit, l'archer peut éviter le mur du château d'en face si le mur fait moins de 3 niveaux de hauteur. Le
Ok.
mage attaque deux fois, enfin voilà,
Il y a des petites subtilités quand même.
des
Oui,
petits trucs
c'est
comme
vraiment
ça
le jeu dans le jeu, quoi.
ouais, et qui sont lisibles dans le menu d'aide du jeu si on s'en rappelle pas ou si on veut clarifier un point qu'on aurait trouvé obscur. Ça, c'est plutôt cool.
Dernier truc un peu cool d'ailleurs, il y a pas mal d'options d'accessibilité. Alors j'ai appelé ça les options d'accessibilité, je sais pas si ça y rentre vraiment, mais t'as pas mal de petits. C'est des médailles, je crois.
Ouais, enfin,
Ah oui!
y a un système un peu de badge à la Paper Mario que tu peux activer ou non. Donc t'as ceux qui te facilitent la vie, t'as ceux qui te la rendent plus difficile et t'as ceux juste qui te filent les trucs de qualité de vie, on va dire. Que tu obtiens un peu caché dans le jeu, souvent c'est acheté dans les boutiques ou trouvé dans les coffres de mémoire. Et notamment, il y en a qui permettent de récupérer ta vie après les combats automatiquement, il y en a qui te font gagner plus d'XP, un truc basique. Je crois qu'il y en a même un ou deux qui te facilitent la vie pour les actions contextuelles pendant les combats.
Oui.
Donc il y a quand même moyen de simplifier la tâche si on sent qu'on galère un peu.
Voilà, mais je trouve que l'idée est assez sympathique en fait. C'est vraiment, tu te fais genre ton expérience à la carte. Je trouvais ça un peu rigolo de dire ouais, j'ai juste envie de gagner plus d'XP là maintenant parce que sinon c'est relou. J'ai juste envie que ça me redonne de la vie après chaque combat sinon c'est relou et ainsi de suite.
Ouais, voilà, tu peux un peu te faire plaisir. Moi, je l'ai fait sans les trucs facilitant la vie. J'ai juste pris ceux qui me permettaient d'avoir des informations supplémentaires, histoire juste de me faciliter la vie. Pas embêter avec le reste. Et il y a aussi un petit système de customisation des personnages. Genre, c'est très très léger, hein. C'est l'armure, l'arme et des accessoires. Tous les accessoires qui sont intéressants, parce que bah, l'arme, tu mets la plus globalement. Mais les accessoires,
Oui.
il y a moyen d'avoir des petits bonus sur les persos. C'est pas au point de casser le jeu en deux, hein, mais ça simplifie la vie. Enfin, ça simplifie, ça permet de customiser un peu ses personnages, mais ça reste très limité.
Oui, et d'ailleurs, comme tu disais, le jeu est simple là-dessus. Dès que tu achètes une arme plus forte ou une armure plus forte que celle que tu as, il te propose automatiquement de revendre l'existante, quoi.
Ouais,
Ah,
ça
donc
c'est chouette.
le truc est pas relou, quoi.
Non, pour le coup, c'est
La
quand même.
qualité de vie est là.
C'est clairement, elle est là. Ça c'est plutôt bien fait. Dernière petite chose que j'avais oublié de mentionner sur les combats,
Oui.
c'était un petit peu la façon dont tu gérais les MP. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte, quand vous jouez au jeu, ils n'ont pas beaucoup de base, les personnages. Et ils vont pas en gagner beaucoup, en fait, pendant le jeu. Et là, le petit truc, en fait, qu'ils ont trouvé pour équilibrer les sorts et le bateau de MP, c'est qu'en fait, dès que tu fais une attaque basique, tu récupères des MP. Ce qui fait qu'en fait, tu es encouragé à alterner tes compétences d'attaque basique. Et du coup, ben, si tu veux te soigner, c'est pas mal de garder un peu de MP pour pouvoir faire le sort de soin au cas où, quoi. Et y
Et
a, voilà, c'est un autre petit aspect stratégique de gestion de ressources qui est assez sympa.
puis ça évite de tomber à court de MP complet, ce qui peut arriver dans certains jeux de ce type-là. Je pense à Super Mario RPG justement, dans lequel ça arrive de temps en temps de tomber complètement à court de MP, c'est un peu lourd. Voilà. C'est le genre de truc qui est un petit peu pénible parce que t'es obligé soit de dégainer un objet, soit d'aller refaire le plein et tout, et c'est un peu relou. Bref, je vous propose de faire une seconde pause musicale. Alors là, cette fois-ci, on va écouter un morceau qui a vraiment été composé par Yasunori Mitsuda, qui s'appelle The Town of Mirth Day, donc c'est la ville de Mirth, le jour. Bêtement, je sais pas du tout quel est le nom français, enfin, le peu que j'ai fait du jeu était en anglais. Donc voilà. Bref, ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et nous allons donc aborder cette dernière ligne droite sur Sea of Stars. D'autres jeux vedettes. On va essayer de parler un petit peu de l'enrobage, de la DA, tout ça. On en a déjà parlé un tout petit peu, mais ça se veut très 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 inspiré de l'époque Super Famicom, Super Nintendo, du RPG japonais. On a une DA tout en pixels absolument magnifique.
Moi, ça me fait penser beaucoup à Seiken 3.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça faisait partie des petites références au Seiken Densetsu 3, alias Trails of Mana.
Pour ce côté très coloré, très très fou, très, comment dire, très détaillé.
Ouais, très fouillé. T'as énormément de feuillages, de machins, de trucs. Et c'est vrai que Seiken Densetsu 3 s'amusait beaucoup à faire ça, à faire des ombrages, à faire... Il est assez fou ce jeu, hein, sur Super NES. Si vous avez l'occasion de jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, c'est quand même assez, assez pété, quoi.
C'est limite plus beau que le remake.
Bah, il est pas en 3D comme le remake, mais effectivement, je pense que ça fait partie. Si, sur Super Nintendo, ça doit faire quand même partie du top 3 facile.
Ah oui, c'est un des plus beaux jeux de la Super Nintendo, en tant que c'est un des derniers.
C'est ça, c'est vraiment, on est dans les. Là, elle était même plus sur sa dernière jambe, la Super NES, elle était déjà deux pieds dans la tombe quand le jeu est sorti, hein. Enfin, en Occident en tout cas, parce qu'au Japon, c'est vrai que ça
dure
s'est prolongé un petit peu plus longtemps.
Bah, de toute façon, il n'est pas sorti en dehors du Japon, donc ça règle le problème.
Alors, sauf sur la compilation Collection of Mana, où on a une version francisée d'ailleurs,
ouais.
Je crois.
Oui.
Donc, si vous avez aimé Trails of Mana version 3D, vous pouvez essayer la version 2D, vous allez voir, c'est un petit peu différent, mais. Enfin, l'histoire est la même, le jeu est finalement de grosso merdo le même, mais c'est vrai que la DA est quand même très 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 différente. Bref, donc oui, ça fait beaucoup penser à ça. Il y a pas mal de petites choses qui m'ont fait penser, moi, à Chrono Trigger aussi.
À la carte du monde, comme mentionné Mecton, c'est une zone où tu te balades tranquillement à pied, il n'y a pas d'ennemis, tu as une petite musique tranquille.
Des petits oiseaux qui volent.
C'est ça. Pour le coup, c'est vraiment très très détaillé, c'est très très chouette. T'as une scène, un peu, à un moment dans le jeu, il y aura une scène un peu majeure en termes de dramaturgie qui va arriver. Et pareil, ils l'ont tout fait en pixel art et vraiment, je sens qu'ils ont mis le paquet sur cette scène.
Alors, intéressant parce que je percute maintenant, je m'en rappelle seulement, il y a des cutscenes animées.
Oui, mais là, c'est même pas une cutscene animée, c'est vraiment un truc fait en pixel art. On se croirait vraiment à l'époque, genre des intros de SNK sur Neo Geo, quoi.
Excellent.
Vraiment, tous les personnages ont fait ça, et effectivement, il y a des scènes animées.
Oui, ça fait penser un petit peu aux fameuses cinématiques de Chrono Trigger où on t'explique le truc avec la jeune fille qui engendre la jeune fille qui engendre la mère de la mère de la mère. Enfin, tu vois, ça fait penser à des petits trucs comme ça, ce genre de petites séquences. Bon, après, beaucoup plus fouillées, hein, mais. Tac, 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 qu'est-ce que je voulais dire?
Ouais, ben,
parce qu'on avait sur le pixel art, j'ai bloqué sur la cuisine, encore une fois.
Alors.
Il y a une partie cuisine.
C'est quand même. C'est pas Unicorn Overlord, quoi.
Non, c'est pas. Mais j'aime bien, tu vois, cette alchimie entre les. Quand tu fais une recette, en fait, il y a 3 ou 4 images qui vont s'enchaîner pendant que tu maintiens le bouton avec les petits bruits de cuisine derrière. Je suis fan.
C'est la cuisine dans le jeu. Un jour, il faudra qu'on fasse un sujet, la cuisine dans le jeu vidéo, parce que c'est vrai qu'entre Breath of the Wild, Unicorn Overlord, ce genre de petits trucs-là, il y a quand même un
Mama.
Truc avec. Et Cooking Mama, il y a quand même un truc avec la bouffe dans les jeux vidéo qui est.
Ah bah,
je trouve assez fascinant.
On rappelle que dans Castlevania, les cœurs servent à utiliser les objets annexes, mais on soigne avec des poulets.
C'est ça, des cuisses de poulet. Bref, donc oui, une DA qui forcément va s'inspirer de Secret of Mana, de Trails of Mana, de Chrono Trigger. Probablement d'autres trucs, il y a certainement des références glissées un peu partout.
Les petites vignettes de personnages sont chouettes aussi.
Très très Golden Sun, les vignettes de personnages d'ailleurs.
Oui. Mais voilà, l'idée c'était quand même, en termes de DA, d'aller chercher le JRPG traditionnel on va dire des années 90, mais si Golden Sun est sorti un peu après, c'est quand même.
Ah, on sent que c'est vraiment cette période 16 bits, 2D, des RPG qui se finissent en une vingtaine d'heures, très, très rythmé, très condensé en termes d'histoire, et avec des personnages haut en couleur et immédiatement reconnaissables, quoi.
Oui, faudra qu'on en reparle un petit peu d'ailleurs dans l'aspect scénario. Le deuxième truc, alors vous l'avez écouté jusqu'à présent, mais c'est vrai que ça mérite d'être souligné, et je l'ai redit, Yasunori Mitsuda, donc le compositeur de Chrono Trigger, de Xenogears, qui a été guest sur la bande-son, qui a fait une petite dizaine de morceaux de ce que j'ai compris à peu près.
J'avoue que j'ai jamais trouvé l'os définitif avec toutes les musiques et qui a fait quoi. Mais effectivement, j'en ai repéré vraiment 3-4, c'est sûr, c'est lui. Et après, les autres, je ne saurais pas dire. Mais il y en a vraiment, c'est, enfin, tu sens qu'on lui a demandé de faire un peu son style Chrono Trigger de l'époque. Et il les fait bien. Pour le coup, elles sont cool, ces chansons.
Effectivement, c'est Eric Brown qui s'est un petit peu lâché. Alors, je précise pour ceux que ça intéresse. Que normalement, voilà, il y a une édition 2 vinyles et une édition 3 CD, 2 CD, pardon, donc 2 CD ou 2 vinyles de Sea of Stars, et dessus il y a, comme je disais, grosso modo, une grosse dizaine de musiques qui sont composées par Eric Brown, par Yasunori Mitsuda, et le reste est composé par Eric Brown. Et ça va, quoi, les mecs se lâchent un peu. Alors par contre, a priori, l'OST n'est sorti qu'au Japon. Donc, faut se bouger un petit peu pour le choper.
C'est curieux pour un jeu développé au Québec.
Il a peut-être extrêmement bien marché en Asie, ce serait pas très très surprenant, hein, parce que...
Je pense qu'ils ont quand même bien ciblé leur marché, pour le coup.
Ça, c'est sûr que tu as les gros otaks occidentaux et puis les japonais. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Là-dessus, c'est vrai que c'est quand même un petit peu incontournable. En dehors de ça, alors, pour conclure un petit peu et terminer sur Sea of Stars, j'aimerais qu'on fasse un petit point scénar. Alors on va essayer de faire sans spoil, je précise. On va dire scénar, personnage, tout ça, parce que bon, ça reste un JRPG qui est produit au Québec, mais qui est un JRPG. Donc le...
Alors pour le coup, il n'y a pas de personne amnésique.
Il n'y a pas de... Et il n'y a pas l'air d'y avoir d'animaux de la forêt qui sont devenus fous.
Non, mais par contre, le monde devient fou, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que nos deux héros, Valère et Zale, gagnent du solstice. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable, ils sont nés le jour du solstice, soit d'hiver, soit d'été. Alors en fonction, bah, t'es soit guerrier de la lune, soit du soleil. Valère, de mémoire, c'est la demoiselle guerrière de la lune, elle tape des gens avec un bâton comme Sangoku dans Dragon Ball. Et Zale, c'est celui du soleil, lui fait des boules de feu et il tabasse des gens avec une épée. Et c'est quoi leur but dans la vie? Et bah c'est d'aller casser la gueule. Alors, comment ils s'appellent déjà ces trucs?
Le Fleshmancer.
Alors le Fleshmancer, c'est le grand grand méchant de l'histoire, hein, qui a disparu, qui a été combattu, qui a disparu du monde, mais qui a laissé
des hôtes,
voilà. Et en fait, il se trouve qu'il y en a encore un à buter, qui s'appelle, alors je sais plus c'est l'autre de quoi, mais il est sur une île spectrale et tout, et en gros, la première mission dans le jeu, c'est d'aller lui casser la gueule.
L'autre du Maroual.
L'aube du Maroual. Quoi?
Non, rien.
Attendez, quoi?
Non.
L'aube du Maroual. Alors, écoute, on va pas dans le nord pour aller tabasser des gens à Lille. Ce n'est pas cool. Et en gros, ce que vont faire nos deux héros, c'est se rendre donc, sur cette fameuse île spectrale pour aller casser la gueule de l'autre avec leurs deux senpais. Parce qu'il y a deux autres guerriers du solstice qui sont encore en activité. Et leur maître, qui est un vieux monsieur avec une barbe et un bâton. Et sur le chemin, ils vont retrouver leur ami d'enfance qui s'appelle Garl, qui est un cuisinier guerrier, qui a perdu un œil quand il était gamin, avec une escapade qui a mal tourné dans une grotte. Mais qui décide de les accompagner et qui est un petit peu le personnage super sympa, bienveillant avec tout le monde, qui essaye de résoudre les choses en étant sympa et en donnant aux gens à manger. Et bah, comme c'est un JRPG, ce ne sont pas les seuls autres personnages, il y aura des twists. On va rencontrer des personnages jouant en couleur, notamment des pirates, avec leur capitaine, le capitaine Cliché.
Ah, c'est génial.
Bah, notamment qui vont essayer de les aider à aller sur cette fameuse île. Hein. C'était les personnages de la démo pour ceux qui y avaient joué. Et il y aura des twists, il y aura d'autres personnages qui vont être recrutés, on va explorer plein de parties du monde. Et voilà, et en fait, moi j'étais un petit peu déçu par le scénario, je vais être honnête là-dessus.
Parce que simple ou...
Alors, j'ai pas de problème avec les scénarios simples. En fait, c'est un. Alors, il y a d'autres. Bon, déjà, je trouve que les deux personnages ils sont assez plats. Valère et Zale, c'est des bons héros, un peu transparents. Et en fait, en finissant le jeu, j'étais, mais c'est quoi la différence entre les deux à part leur sexe? C'est un petit peu dommage.
Oui, d'ailleurs, on l'a pas dit, on peut choisir en personnage principal l'un ou l'autre et changer en plein jeu. Quoi.
Oui, ça change pas énormément de choses au scénar. En fait, non, le truc qui m'a vraiment déçu, c'est que il y a beaucoup d'éléments dans le jeu qui te sont un peu comment dire enfin moi ce que j'aime bien dans un scénario, notamment dans un RPG, c'est qu'on te met en place des tensions, des rivalités, on te montre des méchants et compagnie, et normalement dans le jeu t'as un payoff, vraiment une conclusion satisfaisante où bah à un moment bah le méchant tu lui casses la gueule quoi. Tu le
Il faut
remets à sa
lui péter
place et
son gueule, quoi.
voilà, après qu'il décaissait les couilles pendant tout le jeu. Et dans le jeu, ce qui se passe à un moment, c'est qu'on te fait monter un petit peu cette tension dramatique, et elle n'est pas résolue dans le jeu. En fait,
Ah,
je
merde,
sais pas ce qui se
gros.
passe, au dernier tiers, le scénario se casse la gueule, et ils le finissent, tu sens qu'il est fini en rushant, en introduisant de nouveaux personnages qui disparaissent dans les 2 minutes qui suivent, et même la fin tombe comme une autre boudin, et le pire dans l'histoire. Désolé, mais je dois respecter parce que je trouve que c'est vraiment pas ouf ce qui se. Enfin, je suis pas fan de ce genre de méthode. Je parlais des conques arc-en-ciel à un moment en collectible à récupérer. Bah, si on veut la vraie fin, bah, faut les avoir toutes.
Oh non.
Oh, c'est moche.
Voilà. Et moi j'avoue que c'est cette partie-là, le scénario m'a un petit peu déçu.
Alors
Mais
quand tu dis
donc
vraie
genre,
fin...
il y avait un trou last-boss avec une espèce de vraie fin ou de fin alternative, mais faut avoir fait le 100%, quoi.
Voilà, y a
Hein,
vraiment
c'est un
cette
peu tristoun.
Ouais, ça m'emmerde un peu spoiler parce que je pense que ça va gâcher. Enfin, ça
Non,
va
mais
peut-être
quand
pas
tu dis
motiver.
vraie fin, c'est une scène de fin qui change ou c'est tout un pan de jeu qui s'ouvre?
C'est plus la conclusion qui est modifiée, on
Ok.
va dire. Donc c'est
Ah, c'est vraiment dommage.
le gros du scénario va être le même, c'est vraiment plus la fin. Et voilà, moi j'ai trouvé ça dommage parce que, bon, déjà la fin de base n'est pas extraordinaire. Et j'aurais bien aimé avoir Bah, du coup, je me suis même pas emmerdé, j'ai pas fait les. Je les ai pas récupérés, ça m'a fait chier, je suis allé la voir sur YouTube. Parce que ça suffisait.
Ok.
Enfin voilà, donc c'est vrai que pour le coup, moi, c'est un peu ce qui m'a déçu sur le jeu, c'est le manque de satisfaction à la fin du scénario. Et c'est dommage parce que vraiment, je pense que sur les 2 premiers tiers, j'ai vraiment accroché. Je trouve qu'il y a des plot twists un peu convenus, hein, normalement. Vous en avez certains que vous allez les voir venir à des kilomètres. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, t'as quand même un gros événement qui se passe et le jeu. Je sais pas ce qui s'est passé côté développement, mais je pense qu'en fait ils ont rushé la fin du jeu et du coup ça marche plus du tout.
Ou alors ils ont préparé une suite dans laquelle tu auras le dénouement et on aura une espèce de bilogie.
Techniquement, la suite existe, c'est The Messenger.
Oh.
Par contre, effectivement, si on a joué The Messenger, il y a plein de références cool, mais comme je l'avais pas fait à l'époque. Et ben moi je suis passé complètement à côté et du coup c'était vraiment décevant.
D'accord, donc en dehors de ce petit bémol sur le scénario, on est quand même d'accord que... Et encore, parce que si ça se trouve, il y a des gens que ça ne dérangera pas tant que ça finalement.
Mais j'ai un collègue qui lui l'a fini et ça lui a pas posé de problème. Donc c'est vraiment, je pense que ça dépend des gens et de ce qu'on entend dans le JRPG. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui accorde de l'importance à ce que mon jeu se termine, enfin tout soit résolu dans le jeu. En tout cas, un maximum de choses et que ce soit satisfaisant. Et là, c'est vrai que je suis resté sur ma faim. J'ai un pote, c'était pareil d'ailleurs.
Est-ce que... C'est compliqué d'en parler sans savoir de quoi je parle, mais est-ce que ce genre de frustration peut être levé par les... Alors je sais pas s'il nous guide tout le long, mais il y a un petit personnage qu'on retrouve sur les camps qui te raconte des histoires. Alors, je vois ça actuellement, là je vois ça comme du lore optionnel. Est-ce que ça peut éventuellement aider à
Alors.
passer la pilule, quoi?
C'est du lore optionnel. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Parce qu'en plus,
J'aime
si tu...
bien cette ambiance aussi, ouais.
En fait, il y a un petit truc sympa, c'est qu'effectivement, ce qu'elle raconte, tu retrouveras ces éléments dans le jeu à un moment ou à un autre. Donc, en fait, c'est pas déconnant de les lire. Ça apporte un peu de compréhension et peut-être même ça peut te permettre d'anticiper certains éléments de l'intrigue. Ça peut être assez satisfaisant d'avoir compris ce qui se passait en lisant les éléments dans le jeu. Mais voilà, ouais, non, c'est voilà, c'est vraiment la fin qui m'a déçu. Et pourtant, enfin, voilà, tout le reste du scénario est plutôt accrochant, en fait. Il y a une bonne aventure, le conflit est assez simple. On comprend qu'il y a un petit peu plus que juste aller buter l'autre, hein, évidemment. Hein, je sais pas, il y aura d'autres choses, il y aura d'autres petites surprises. Mais voilà, c'est vrai que moi j'étais déçu par la fin, mais vraiment le début, tu sens qu'il y a quelque chose et ils veulent faire. Ils voulaient créer vraiment une aventure avec des scénarios variés. En termes d'événements, parce que là, on a juste pas, vous avez juste vu le début, mais c'est vrai qu'en fait, il y a un moment, on va se retrouver dans une espèce de mer hantée. Donc là, il y a encore une autre ambiance. Il y aura tout un moment où il y aura une cité sous l'eau à visiter aussi. Donc il y a vraiment pas mal de trucs cool à voir. dans l'univers du jeu.
Eh bien, ça a l'air. En tout cas, ça donne envie. Alors, je m'excuse auprès de nos auditeurs sur le fait qu'effectivement, nous n'avons qu'un expert de Sea of Stars, parce que malheureusement, on a reçu le jeu vendredi, quoi, en gros. Donc, c'est toujours un peu compliqué de faire un jeu en très très vite comme ça. On a vraiment essayé avec Mecton d'avoir un aperçu de gameplay, mais forcément, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin que ça. Donc voilà. Ça a l'air quand même assez cool dans l'absolu. Envie de dire, je suis pas très étonné que le jeu ait fait bonne impression l'année dernière quand il est sorti, parce qu'effectivement, des RPG un peu. Le JRPG traditionnel, retrouver le JRPG traditionnel de la Super Famicom, mais remanié au goût du jour avec plein d'options de qualité de vie, c'est quand même pas un truc qu'on voit tous les jours.
Ouais, moi pour le coup, je parle de déception, mais j'ai vraiment accroché pendant quasiment toute ma partie en fait. Et c'est un jeu qui est plutôt bien rythmé. On avance vite, ça se finit en une trentaine d'heures de mémoire, hein, 20-30 heures maximum. Donc c'est vrai que moi au début, franchement, quand j'ai joué, j'étais vraiment « Ah, mais ça, c'est vraiment le Chrono Trigger de 2023. » Et ce qui est pour moi un super compliment, hein, parce que j'adore Chrono Trigger, c'est un jeu préféré, on en a déjà parlé. C'est vrai que ce début m'a vraiment accroché, enfin vraiment les deux premiers tiers. Je mets un bémol sur le dernier, parce que c'est mon ressenti. Mais ouais, non, il y a vraiment un truc chouette. Et si vous voulez faire un petit JRPG sympa, dispo sur votre Switch, et à un tarif raisonnable, c'est une bonne pioche, hein, globalement. C'est plutôt un bon jeu.
Voilà. Et d'ailleurs, je fais la remarque maintenant, mais c'est vrai qu'entre les remakes, alors les remakes ou les ressorties de Suikoden.
Yuden des Chronicles, là.
Alors, il y a Suikoden, il y a un remake de Suikoden, je crois, qui est prévu, 1 et 2, me semble-t-il, cette année. Il y a effectivement Ayuden Chronicles, 100 Heroes, qui sort aussi. Il y a Sea of Stars, on est quand même... C'est intéressant, quoi, de voir que, finalement, le JRPG un peu traditionnel reprend du poil de la bête, là-dessus.
Je pense qu'il n'a jamais vraiment arrêté, hein, de mon point de vue.
Il y a quand même eu quelques passages à vide, hein.
Ouais, là, je vois ce que tu veux dire, mais... de toute façon, il y a des gens qui apprécient ce style de RPG, parce que c'est vrai que les Xenoblade qui durent 180 heures, bah en fait, il y a un moment, quand t'as 35 ans, un boulot et des enfants, tu peux pas les gérer, quoi.
C'est ça. C'est quand même un petit peu compliqué, on va pas se cacher. Donc effectivement, ce type de jeu, ouais, c'est vrai qu'un Chrono Trigger qui se finit en une petite quinzaine d'heures et dont l'énorme replay value, on en avait déjà parlé, hein, c'est vraiment justement de faire du New Game Plus pour aller explorer différents trucs. Effectivement, c'est pas... Ça s'adresse à un public un petit peu différent, mais c'est pas complètement déconnant.
Ouais, mais pour le coup, si vraiment ce genre de RPG ça vous intéresse après Sea of Stars, je vous recommande de jouer à Chrono Trigger. De manière générale, je vous recommande de jouer à Chrono Trigger, mais... voilà, moi je trouve que c'est quand même un... L'inspiration, en tout cas, sur pas mal de choses, est plutôt réussie. Oui, ça aurait pu être beaucoup mieux en fait. Enfin, avec les décennies supplémentaires de connaissances qu'on a, moi je m'attendais c'est vrai qu'à un truc un peu mieux quoi. Donc, déception de mon côté, clairement. J'ai utilisé le mot.
Mon dieu.
Voilà.
Le D-word.
Le D-word. J'ai passé un très bon moment, mais c'est vrai que j'en attendais peut-être plus que ce que j'ai eu.
Ah non, c'est possible. C'est pas forcément très évident, surtout quand le truc démarre très très bien comme ça.
Ouais, c'est un bon
de se dire, ah merde, peut-être que ils ont pas été jusqu'au bout du truc, ça. Je comprends la sensation, hein, d'avoir vraiment un début tonitruant, et effectivement, ça s'essouffle un petit peu à deux tiers du jeu, tu te dis, ah merde. Voilà, bref. En tout cas, c'était très chouette. C'était donc Sea of Stars, sur Switch, disponible en physique maintenant, mais disponible en démat depuis un petit moment, qui coûte pas très cher que ce soit en physique ou en démat, hein, donc c'est vrai que c'est quand même, si vous aimez le style... C'est pas inintéressant d'en profiter. J'en profite pour faire une petite annonce. Alors déjà, il y aura un petit article, normalement, la semaine prochaine, sur Blue Retro. J'expliquerai exactement ce que c'est à cette occasion, mais c'est un... Basiquement, c'est un machin qui permet d'aller brancher des manettes modernes, genre la Switch, sur des vieilles consoles, genre la Super NES. Donc ça fait des trucs un peu rigolos, avec du sans-fil et tout. Bien foutu, les potes. Qui est créé par un petit français à qui on fait des gros bisous, je pense qu'il nous écoute pas, mais c'est pas grave, on lui rendra un petit hommage à ce moment-là. Autre petite chose, nous avons une petite surprise pour le stream du vendredi, c'est Jean Fulgence qui l'assurera, et c'est un stream sponsorisé, attention. C'est-à-dire qu'on a reçu un joli code pour un jeu qui a l'air tout à fait sympathique. Et donc, il y aura un live vendredi. Ne ratez pas ça, ce serait quand même dommage. Parce que il a plein de choses à dire et à montrer. Et normalement, oui, voilà. Et normalement, il devrait y avoir un petit test écrit dans la foulée qui va pas être très très long, mais qui, histoire de montrer un petit peu ce qu'on a pensé du jeu. Voilà. Quant à nous, on se retrouve et ben, la semaine prochaine en podcast, comme d'habitude. Dans deux semaines. Ça y est, on a une sponsor dans VPN, on est des vrais influenceurs. Merci Zergy. C'est pas tout à fait ça, hein, mais voilà.
Vous écoutez le Dojo Bar d'où vous voulez. De toute façon, Twitch, il n'y a pas de VPN, donc vous n'avez pas besoin de dans VPN.
C'est ça. Il n'y a pas de limite. C'est nos limites. Bref, voilà. Nous, on se retrouve dans deux semaines et ce sera très, très, très probablement Paper Mario, la porte millénaire.
Putain, encore un RPG.
Encore un RPG, ouais. Mais,
encore un RPG à des années 2000.
Encore un remake. voilà, c'est très marrant, probablement ça qui va arriver.
D'ailleurs, j'étais surpris, j'ai vu des pubs dans Paris là aujourd'hui pour Paper Mario.
Nintendo pousse très 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 fort ce Paper Mario.
Bah, il est très bon.
Franchement, il est plus que sympathique. Hein. Moi, je suis assez convaincu. Donc, on va voir. Voilà, pendant l'app, je crois que j'ai à peu près tout annoncé, c'est bon. Donc, on peut conclure. Merci à tous. Gros bisous.
Des bisous.
Et on vous dit à dans deux semaines.
Bisous.